Il est quasiment 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Comment limiter la circulation du Covid dans les écoles? En seulement une dizaine de jours, le taux de positivité des moins de 10 ans est passé de 3 à 10%.
Une hausse qui pose question sur le protocole sanitaire mis en place, notamment à la cantine, un moment critique du point de vue du brassage.
Et c'est l'un des sujets qui était sur la table du Conseil de défense aujourd'hui avant les annonces de demain.
Au menu également, l'instauration probable d'un couvre-feu généralisé, donc pour toute la France à 18h.
Les commerçants font les comptes, pour eux ce serait catastrophique.
Le jambon rose bonbon, c'est bientôt fini.
Un rapport parlementaire recommande l'interdiction totale des nitrites qui allongent la durée de conservation mais qui sont soupçonnés de favoriser l'apparition de certains cancers.
Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt vise le ministre des Outre-mer. Il s'appelle Sébastien Lecornu.
L'effet remonte à l'époque où il présidait le département de l'Eure.
Un suprémaciste noir fait exploser son appartement dans le Val d'Oise. Ce militant très radical de la cause noire manipulait des produits chimiques.
Et puis il mesure 37 mètres de haut. Il a quelques siècles au compteur et il vient de remporter un trophée suffisant, me semble-t-il, pour attiser votre curiosité, vous a incité à rester avec nous. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,21% à 5662 points.
Et puis le temps, ça ne s'arrange pas du côté de la neige, ma chère Anissa, bonsoir.
Bonsoir Julien, oui, dans le nord-est et les Alpes, il va beaucoup neiger demain avec 9 départements placés en vigilance orange pour les prochaines heures. Attention aussi demain, beaucoup de pluie, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
De nouvelles décisions, de nouvelles mesures restrictives seront donc annoncées demain à 7h06 sans doute. Objectif, remporter la course de vitesse contre le Covid en attendant la vaccination à grande échelle.
Un reconfinement semble pour l'instant écarté, mais l'ajout de nouveaux départements sous couvre-feu dès 18h est très probable. Et peut-être même la généralisation de ce couvre-feu à l'ensemble du pays.
Et parmi les données surveillées de très près par le gouvernement, il y a le taux de positivité des enfants. On sait le rôle des plus jeunes dans la contamination. Anne Le Gall, on a bien compris qu'il n'était pas question de fermer les classes, en tout cas pour l'instant, mais il y a sans doute des aménagements à prévoir.
Oui, effectivement, ce qui intrigue en ce moment, c'est la hausse du nombre de cas positifs chez les moins de 10 ans. Il a triplé dernièrement. A priori, pas de lien direct avec la rentrée des classes, puisque les contaminations correspondent à la période des vacances. Mais le variant britannique, qui est 50% plus contagieux, circule particulièrement bien chez les enfants. Face à ce variant, il y aura donc des mesures à prendre, estime le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, qui recommande cependant de laisser les écoles ouvertes. Mais il faut, selon lui, des mesures de surveillance beaucoup plus strictes, avec d'abord des tests réguliers. 1 million de tests antigéniques sont prêts à être utilisés dans les établissements scolaires, avec peut-être aussi une organisation différente pour limiter le risque de contamination entre élèves. Certains observateurs avancent des pistes très pragmatiques. Attribuer une salle de classe fixe, par exemple, pour que les élèves ne se croisent pas dans les couloirs. Proposer des cours par demi-groupe, comme dans 70% des lycées. Étaler les horaires de cantine ou prévoir un pique-nique en classe, comme cela se fait à l'étranger. En revanche, l'allongement des vacances de février, suggéré par certains médecins, ne semble pas à l'ordre du jour actuellement.
Les précisions d'Anne Le Gall du service Société d'Europe 1 et on verra donc ce qui sera annoncé demain.
La France, qui comparée aux autres pays, ne s'en sort pas si mal, si l'on peut dire.
Oui, l'Irlande, par exemple, bon élève de la lutte contre la pandémie jusqu'à présent, présente depuis cette semaine le plus haut taux de transmission au monde devant la République tchèque et la Slovénie. Le Royaume-Uni enregistre 1564 morts en 24 heures. C'est un record absolu. En Italie, le gouvernement annonce son intention de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 30 avril.
Et du côté des États-Unis, eux, ils sont confrontés à un nouveau record de décès.
Près de 3 morts chaque minute. Les patients sont entassés dans les couloirs des hôpitaux. La ville de New York craint de manquer de vaccins. Au Canada voisin, les habitants de l'Ontario ont reçu l'ordre de rester chez eux. Le système de santé de la province est sur le point de s'effondrer. La Chine prend également de nouvelles mesures de confinement. Et puis pour en revenir à ce qui nous attend sans doute chez nous, en France, ce couvre-feu généralisé à 18h, eh bien, cette hypothèse inquiète évidemment beaucoup les commerçants.
Oui, car si cette mesure est préférable, bien sûr, à un confinement, elle n'en aura pas moins des conséquences sur les finances de ces commerçants.
Qui commencent à faire les calculs et qui ne sont pas vraiment rassurés, Carole Ferry.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, vous avez déjà la grande distribution et pour cause, le créneau 17h30-20h, c'est un tiers des courses alimentaires. Alors, on ne va pas non plus se laisser mourir de faim. Il y aura forcément un phénomène de report, notamment le week-end. Et d'ailleurs, la grande distribution appelle à l'ouverture généralisée des magasins le dimanche pour désengorger les rayons le samedi. Un phénomène de report plus compliqué dans d'autres secteurs comme l'habillement, par exemple. Selon Damien Deforest, directeur général de la chaîne CEA, la perte de chiffre d'affaires dépend dépendra du scénario choisi.
Par rapport aux magasins qui sont déjà dans l'obligation de fermer à 18h, nous avons déjà une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 15 à 20%. Si cette décision venait à être étendue sur l'ensemble du territoire français, sur les grandes métropoles, on partirait plutôt sur de l'ordre de moins 25 à moins 30% de chiffre d'affaires. Un confinement le week-end nous entraînerait obligatoirement une perte de chiffre supplémentaire et on peut tabler sur l'ordre de moins 40%.
Même crainte du côté des fleuristes selon Franck Poncet, président du directoire de Monceau Fleurs.
On redoute ce couvre-feu. Souvent, les fleurs s'achètent aussi à la dernière minute, quand on sort du travail, par exemple, ou quand on sort du métro. Et donc, plus on réduit l'amplitude horaire de nos commerces et qu'on réduit le nombre d'occasions d'achat, ça a effectivement un impact. Et on ne le récupère pas. Hein.
Les buralistes aussi misent sur un manque à gagner, notamment sur les jeux de tirage ou de grattage. Manque à gagner, au final, pour les caisses de l'État.
Carole Ferry du service Éco d'Europe 1. Le géant français de la grande distribution Carrefour, dragué par un groupe d'alimentation canadien prénommé Couche-Tard. Les deux entreprises étudient un éventuel rapprochement. Emmanuel Duteil nous en dira plus dans le journal de 19h.
C'est un sacré nom, ça, Couche-Tard. Ouais. L'ancienne garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, renonce à présider la commission indépendante sur l'inceste après avoir été citée parmi les proches d'Olivier Duhamel, accusé, vous le savez, de viol incestueux par sa belle-fille Camille Kouchner.
Le climat actuel ne me permet pas de conduire cette mission avec la sérénité nécessaire, dit-elle. Elle reconnaît avoir ignoré pendant toutes ces années les faits gravissimes dénoncés dans le livre.
Dans l'actualité également ce soir, deux ministres visés par des enquêtes.
Éric Dupond-Moretti fait désormais l'objet d'une information judiciaire pour des soupçons de prise illégale d'intérêt à la Cour de justice de la République. Ça, c'était prévu. Et puis, plus inattendu, en revanche, cette enquête préliminaire révélée par Libération qui vise le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.
Oui, les soupçons Marion Dubreuil, de s'être servi de son poste de président du conseil départemental de l'Eure pour favoriser les intérêts d'une société d'autoroute.
Oui, les faits remontent à juillet 2016. Sébastien Lecornu est à la tête du département de l'Eure, mais au même moment, l'élu Les Républicains siège au conseil d'administration de la Société des autoroutes Paris-Normandie. Il cumule les deux postes pendant près d'un an, comme en attestent ses déclarations de revenus à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Or, d'après Libération et Le Canard enchaîné, Sébastien Lecornu a approuvé plusieurs délibérations de la collectivité en faveur de la Société des autoroutes, dont la rétrocession d'un terrain de 4000 m² ou bien encore l'aménagement d'un échangeur ou d'un parking, d'où les soupçons de conflit d'intérêts. Le cabinet du ministre explique que si Sébastien Lecornu est resté un an au conseil d'administration de la société d'autoroute, c'est pour faire, je cite, « entendre la voix des territoires en toute transparence ». D'après Libération, c'est un courrier qui est à l'origine de l'enquête début 2019. Il est directement adressé à Éliane Houlette, qui dirige alors le parquet national financier. Une lettre signée par un ex-banquier des collectivités locales qui se défend de toute vendetta contre l'actuel ministre des Outre-mer.
Précision signée Marion Dubreuil. À Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val-d'Oise, les pompiers sont intervenus ce matin sur l'explosion d'un appartement qui a déclenché un incendie et l'évacuation de tous les habitants de la résidence.
Une explosion involontaire déclenchée par son occupant, un homme connu pour être un suprémaciste noir qui aurait manipulé des substances chimiques, Cladys Lafitte.
Oui, effectivement, divers ingrédients chimiques qui laissent à penser que le locataire de l'appartement cherchait à confectionner un ou des engins explosifs. Et c'est l'hypothèse principale des enquêteurs parce que cet homme de 36 ans est bien connu des services de police et notamment du renseignement territorial. C'est un suprémaciste noir qui milite pour la constitution d'une nation noire. L'homme a été gravement blessé aux mains. Sa compagne se trouvait elle aussi dans l'appartement au moment de l'explosion ce matin. Elle est actuellement en garde à vue. Tous les deux vont devoir expliquer aux policiers pourquoi ils avaient ces produits chimiques chez eux, produits qui vont bien sûr être analysés, et surtout ce qu'ils comptaient en faire s'ils avaient un projet précis. Pour le moment, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire et la trentaine d'habitants de la résidence a pu regagner leur logement dans la journée.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
L'actualité à l'étranger. 5 mois après son empoisonnement, l'opposant Alexei Navalny annonce son retour en Russie dimanche prochain.
Il assure avoir pris un billet sur une ligne régulière. Il risque une peine de prison, mais dénonce une manœuvre visant à l'empêcher de revenir dans son pays. Et puis aux États-Unis, les démocrates tentent aujourd'hui pour la deuxième fois de destituer Donald Trump, une semaine après les violences au Capitole. Mais la nouveauté, c'est que cette fois, ils sont soutenus par certains républicains.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 18h10 avec Isabelle Millet. Il donne au jambon sa couleur rose artificielle. Les nitrites, soupçonnés de favoriser certains cancers, devraient être interdits en France d'ici à 2025.
Oui, c'est en tout cas ce que recommande un rapport parlementaire. Pierre Herbulot, ça fait un moment que ces additifs sont controversés.
Oui, l'Organisation mondiale de la santé le dit depuis 5 ans, les sels nitrités présents dans les charcuteries augmentent les risques de cancer, ce qui n'empêche pas les industriels d'en utiliser. La grande vertu de ce produit qui rosit le jambon, c'est la conservation, raconte Michel Crouzet, député de Lyon et rapporteur de la mission d'information.
Un jambon blanc qui se conserve beaucoup trop longtemps au frigo, qui ne pourrit plus. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai laissé exprès pendant plusieurs semaines, il n'a pas bougé. C'est pas normal. Pour en arriver à une telle conservation, c'est qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses qui sont mises dedans, ce qui n'est pas normal. C'est vraiment un peu dangereux pour la santé.
1200 à 4000 morts par an en France, selon les études. Les grands groupes qui sentent le vent tourner ont commencé à faire aussi des gammes de jambon sans nitrite, en petite quantité mais plus cher. Ça prouve donc que c'est possible pour l'autre rapporteur, le député Richard Ramos, qui veut lui lutter contre ce qu'il appelle une alimentation à deux vitesses.
Exactement, mon grand combat, moi, de ma vie, c'est de faire en sorte que les plus pauvres, les plus humbles aient le droit de manger sainement. Et donc, surtout quand on a des produits de grande consommation. Quand je n'ai pas les moyens, si je n'ai pas les moyens de m'acheter du caviar, c'est normal. Mais quand je mange un camembert, quand je mange du jambon, eh bien, il est normal que je ne prenne pas de risque. Et je ne veux pas qu'il y ait deux alimentations en France, une pour les pauvres et une pour les riches. Autrefois, les riches mangeaient de la viande, les pauvres mangeaient des légumes. Aujourd'hui, regardez, les riches mangent des légumes, les pauvres mangent de la viande.
Mais alors, l'interdiction de ces sels nitrités n'est pas pour tout de suite. Les débats à l'Assemblée pour l'interdiction donc, de ces sels nitrités dans la charcuterie étaient prévus pour la fin du mois de janvier. Elle a été repoussée à une date indéterminée.
Merci beaucoup Pierre Herbulot, on suivra ça évidemment.
Sans transition, comme on dit, le foot. PSG-OM ce soir à Lens, c'est le trophée des champions, 4 mois après leur dernière joute en septembre. Qui avait vu l'OM l'emporter pour la première fois depuis 10 ans au Parc des Princes.
Et qui s'était terminé, on s'en souvient, en bagarre générale, 5 cartons rouges, un coup de boule de Kurzawa, des accusations d'insultes racistes. Autant dire qu'il ne faudra pas grand-chose pour que la mèche se rallume. La rencontre se joue à Lens à partir de 21h.
Sous maintenant, Canal+ ne fera pas de cadeau à la Ligue pour les droits TV. La chaîne a en effet demandé un nouvel appel d'offres pour l'ensemble des matchs de la Ligue 1.
Et fait planer la menace d'une réduction encore plus drastique des revenus télévisuels des clubs. Si ça continue comme ça, désormais, pour suivre les matchs, il ne restera que la radio.
La Coupe du monde de ski perturbée, elle aussi, par le Covid.
Les épreuves messieurs de ski alpin prévues ce week-end dans la prestigieuse station de Kitzbühel en Autriche sont annulées après la découverte de 17 cas de Covid possiblement liés au variant anglais. Dans le Vendée Globe, 5 skippers dans un mouchoir de poche. Charlie Dalin a délogé de la première place Yannick Bestaven et Louis Burton filent en troisième position.
Ils sont peinards côté Covid. Et puis, c'est un champion, lui aussi, à sa façon, un peuplier noir qui vient de remporter le concours de l'arbre de l'année.
Et si on vous en parle ce soir sur Europe 1, c'est parce que cet arbre a une belle histoire. Il a plus de 300 ans, il est situé dans la Marne et il a retenu l'attention du jury de ce concours, comme l'explique Éric de Kermel, le directeur de la rédaction de Terre Sauvage.
C'est un colosse. Hein. La circonférence, elle dépasse les 11 mètres. Sa hauteur, elle est de plus de 40 mètres. Ça doit être un des plus grands d'Europe. Il a de très belles branches sur les côtés avec un feuillage clair. C'est une écorce qui est très travaillée, qui est caractéristique de ces vieux grands arbres. Ce n'est pas une écorce lisse. Et si son histoire nous a touchés, c'est parce que c'est un arbre qui était un arbre sur un terrain privé. Et il a été question de mettre à bas cet arbre pour construire. Et grâce à l'opération L'Arbre de l'année, finalement, se rendant compte que cet arbre, ça faisait partie de son patrimoine, la municipalité a décidé de racheter le terrain donc à celui qui possédait l'arbre. Et donc, c'est un arbre dont on est sûr qu'il appartiendra toujours à notre patrimoine.
Voilà, Éric de Kermel avec Diane Berger. Cet arbre, vous pouvez le retrouver, sa photo en tout cas sur europe1.fr.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le journal. Un coup d'œil au temps avec Anissa qui nous annonce, et oui, de la neige encore en abondance demain, avec attention, 9 départements placés en vigilance. Hein.
Oui, c'est un épisode neigeux remarquable qui est attendu pour demain. Les départements de la Lorraine, de l'Alsace, plus le territoire de Belfort, les Ardennes et la Haute-Savoie sont placés en vigilance orange, neige, verglas. Demain, c'est donc dans le nord-est, le long des frontières du Benelux, que la neige sera la plus présente, en pleine, jusqu'à 20 cm attendus par endroit. Soyez extrêmement prudents. On sait qu'hier, plus de 2000 personnes se sont retrouvées naufragées de la route. Dans les Alpes, les vallées savoyardes de la Tarentaise, de l'Arve et de la Maurienne seront encore très touchées demain et dans les jours à venir par ces fortes chutes de neige. Attention également au risque d'avalanche dans les Alpes. Et puis, partout ailleurs, c'est la pluie qui est au rendez-vous, de la Normandie Normandie à l'Île-de-France, de la Bourgogne à l'Auvergne, de la Gironde à l'Occitanie. Il pleut toute la journée. Au bord de la Méditerranée, le temps est sec et ensoleillé, mais attention, le vent souffle très fort. Les températures, elles sont plus fraîches sur les régions enneigées, avec moins 1 à 3 degrés dans le nord-est, 4 à 8 partout ailleurs. Et dans l'après-midi, nous aurons 2 à 7 degrés au meilleur de la journée dans les Alpes et le Nord-Est et 9 à 16 sur le reste du pays.
Prudence donc si vous habitez les départements concernés par ces vigilances. Il est tombé et il va tomber sans doute beaucoup, beaucoup de neige. Merci Anissa.
À tout à l'heure.
On vous retrouve à tout à l'heure, 18h30 et à 19h pour un nouveau point sur le temps.
Europe 1, écoutez le monde changer.